Auditeurs, auditrices, bonsoir. Nous sommes le lundi 1er mai 2023, il est 20h et comme tous les lundis à cette heure-ci, on joue la prolongation. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre émission sportive préférée avec son générique plébiscité par tous, un générique réalisé par mon ami Pierre Marcel que je remercie au passage. Alors ce soir à mes côtés, on est heureux de le retrouver, on est très heureux même de le retrouver, et voilà, il lève le doigt, il nous revient après quelques semaines d'absence et c'est pour notre plus grand plaisir. C'est une voix que vous connaissez si vous écoutez cette station, mais aussi si vous écoutez une autre station où il est parfois question de pigeons. Je l'ai écouté, je l'ai entendu cette semaine à mon grand plaisir. Il a vécu une saison qu'il a vu osciller peut-être entre le rouge de colère, le rouge de honte parfois, mais qui pourrait le voir terminer rouge de plaisir, on lui souhaite. Il s'agit bien entendu de Steve Gries. Salut Steve, comment vas-tu ?
Salut, bonjour. Ben, rouge de ferveur avant tout, hein. C'est pour ça que je ne sais plus venir, parce que je suis dans les tribunes, les animations qu'on fait sont des animations totalement inédites, et donc voilà. Pour le moment, c'est pas qu'il y a du beau jeu, mais pleine bourre au niveau de tout ce qui se passe autour du standard.
Eh ben, on suit ça avec beaucoup d'intérêt. En face de lui, de l'autre côté de la table, on reconnaît son hymne. Il va nous apporter, comme chaque semaine, son sens de l'analyse de ce qui se passe sur le terrain, mais également en dehors du terrain. C'est le fondateur de l'agence de marketing sportif Sportimize. Il s'agit bien sûr d'Alexandre Demeter. Salut Alex, comment ça va ?
Salut Sam, salut Steve, bonsoir à tous. Ah. Ça va super.
Eh ben, écoute, on est...
C'est férié, donc nous on bosse.
On bosse, mais dans le plaisir.
La journée était sympa.
Exactement, on est content. Alors avant de débuter, on a une petite annonce à vous faire, puisque ça y est, votre émission On Joue la Prolongation a débarqué sur Instagram. Elle débarque sur Instagram, et comme il s'agit de l'un de tes domaines de prédilection, tu peux, Alex, nous dire voilà, donner le nom, comment, ce qu'il faut. Moi, je suis très novice là-dessus, hein, mais...
Forcément, On Joue la Prolongation, donc la page est créée, on va l'alimenter dans les prochaines semaines avec... quelques petites interventions, podcasts, citations. Ce sera donc un médium en plus à suivre pour tous les fans de foot.
Voilà, on est aussi bien sûr sur Spotify. Vous pouvez retrouver toutes les éditions, tous les numéros de notre émission. Ce soir, au programme, on va bien entendu parler du début des playoffs ici en Belgique, de la finale également de la Coupe de Belgique. Qui a vu l'Antwerp l'emporter sur Malines. Et puis on ouvrira une page de football européen. Le sprint final est lancé dans pas mal de championnats nationaux. On a assisté à du très grand football, notamment en milieu de semaine avec le choc de Premier League City-Arsenal et une performance majuscule de Kevin De Bruyne. On parlera également business à côté du football dans la minute Sportimize avec toi, Alex. Puis ce sera, je crois, question de football allemand et de modèle économique, business model. Tu nous en diras plus tout à l'heure. Et enfin,
c'est en rapport avec la gratuité en ce 1er mai. Certains partis le prônent, donc on parlera de ça.
On parlera de ça, on verra comment ça s'applique au niveau du football. Et enfin, une nouvelle rubrique, j'ai pas trouvé de... Bon, si j'ai trouvé ce titre-là, je vais appeler ça du côté de chez Sam, et où on vous parlera d'une œuvre en lien avec le football. C'est parti pour le coup d'envoi, mais juste avant le coup d'envoi, on va aussi innover. On va chacun vous parler pendant quelques instants de notre moment de la semaine, une chose qui nous a marqué, qui nous a fait plaisir, qui nous a fait rigoler, qui nous a au contraire mis en colère. Au hasard, je vais commencer avec toi, Alex. Mm-hmm. Quel est le moment de cette semaine qui t'a le plus marqué ?
Eh bien, c'est spécial, mais c'est Toulouse. Et on le sait, c'était ce week-end, c'était les finales de coupe dans plusieurs pays, dont la France, l'Écosse... et les Pays-Bas, et finalement, ce qui m'a surpris, bon, tu as Nantes-Toulouse, le stade de France est plein. Les tickets étaient quand même assez onéreux. C'était quand même 50 balles pour y assister en tant que supporter neutre dans la tribune la moins chère. Mais c'est surtout le début de match de Toulouse et du TFC qui était impressionnant. Après 23 minutes, c'était 4-0. Pour une équipe de Ligue 1, du milieu de classement, face à Nantes qui se bat pour ne pas être relégué. C'est tout simplement incroyable qu'ils mènent 4-0, qu'ils ont pris ce match à bras le corps, qu'ils étaient motivés, concentrés, focus, avec une arène incroyable. Et ça n'arrive pas souvent. Et on l'a vu en Belgique avec Antwerp-Malines, on reviendra dessus après. Les deux équipes avaient peur. Et là, Toulouse est sortie, mais pas la fleur au fusil, mais les crocs prêts à tuer l'adversaire. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et la finale était finie après 23 minutes, en fait.
23 minutes, Toulouse qui remporte son premier titre depuis 1957. Il n'avait pas gagné la Coupe de France sous la Ve République, pour ceux à qui ça dit quelque chose. Eh oui, Toulouse qui, pour une fois, ne porte pas porte mal son nom.
Et pour conclure ça, Toulouse retrouverait la Coupe d'Europe. On sait qu'ils avaient affronté Bruges il y a quelques années, mais Toulouse appartient au même holding que le Milan AC.
C'est ça.
Et la question est donc, est-ce que Toulouse pourra participer à l'Europa League,
si le Milan
ou est-ce que l'UEFA va devoir redistribuer cette place?
Eh oui, puisqu'il y a des règles strictes. Eh bien écoute, merci pour ce moment. Steve, à toi, quel est le moment de cette semaine qui t'a plus ou moins interpellé ou marqué?
Ah, alors j'en ai quelques-uns, en fait. Je vais commencer par les moments auxquels j'ai pensé, mais que je n'avais pas retenu. J'avais d'abord pensé à Naples, en me disant que, ayant été plusieurs fois dans cette ville qui est prête à bouillir, comme je connais d'autres clubs qui n'ont pas été champions pendant des années, qui sont fans de foot et qui sont prêts à bouillir, je m'attendais à voir ça ce week-end. Malheureusement pour eux, en tout cas, je ne pense pas que le titre soit annulé.
C'est partie remise.
Mais c'est partie remise. Mais enfin, ça aurait été vraiment bien de le faire maintenant et chez eux, donc ce ne sera pas Naples. J'ai pensé à Tottenham aussi, qui est un club que j'ai toujours bien aimé. Mais Tottenham, qui est en énorme difficulté, qui a viré son entraîneur, qui a viré son directeur sportif, qui s'est pris un 6-1 contre Newcastle il y a deux semaines, qui est remonté comme il pouvait contre Manchester United 2-2, et qui là, alors qu'il perdait 3-0 à Liverpool, ont égalisé à 3-3 à la 93e minute avant de se prendre un 4-3 à la 94e. Je suis très inquiet pour Tottenham, mais donc ce ne va pas être mon moment de la semaine. Alors j'ai choisi un
autre.
Alors j'ai choisi un autre. Ben, il faut faire mousser tout le monde. Alors, après avoir parlé du championnat italien, du championnat anglais, je vais vous parler maintenant de D1B, puisque le FC Liège est monté, donc ça a été acté hier, monte en D1B. Pour les plus jeunes auditeurs, le FC Liège est vraiment un club historique, un peu comme le RWDM à Bruxelles. Moi, étant liégeois, le FC Liège a toujours été très fort, un club présent que j'ai toujours connu en Division 1. Pour la petite histoire, le premier match que j'ai été voir de ma vie était FC Liège-Anderlecht, où le FC Liège avait battu Anderlecht 3-1. Donc c'était quand même un fameux exploit. C'était un club très vintage, qui joue en rouge et bleu, qui avait un sponsor Aja, donc c'est-à-dire des marques de cigarettes qui n'existent même plus et qu'on ne peut plus faire. Et donc je suis particulièrement heureux de voir que ce club revient dans le football professionnel. Alors, il y a un projet derrière ce club. Ce projet est là depuis quelques années. Ce projet n'était pas encore mûr. Ils ont fait venir, pour la petite histoire, vous vous rappellerez peut-être, de Jérémy Perbet, qu'on appelait Perbut, parce que c'était un attaquant extrêmement efficace qui a notamment joué du côté de Charleroi, qui joue maintenant au FC Liège. Et lui encadre une équipe jeune, mais relativement talentueuse. Et on verra ce qu'ils feront en D1B, mais il semble en tout cas que la mécanique soit huilée, soit rodée, pour que ce club historique, ce club que j'aime beaucoup, puisse revenir au premier plan belge. Et ça commencera dès l'année prochaine avec la D1B.
Et ne pas oublier deux choses. Le FC Liège est le premier champion de Belgique de l'histoire du football. Ah. Et la deuxième chose, c'est que si le Standard ne dégrade pas en amateur et le chemin inverse, c'est qu'il y aura trois équipes liégeoises en D1B l'année prochaine, à savoir Serein, le FC Liège et le Standard B.
Eh bien, ça nous fait de chouettes affrontements en perspective. Moi, je vais être plus rapide et plus nerveux. Je vais vous parler, bien sûr, tu parlais du premier match que tu as vu, qui finalement est le match d'un club de ta ville, mais pas de ton club de cœur. Ben, moi, c'est un peu la même chose. Moi, il s'agissait d'un match qui opposait à l'époque le Matra Racing à Monaco, avec un but de Crimo, 1-0 pour le Matra Racing. Mais mon club, c'est le Paris Saint-Germain, et je ne vais pas louper l'occasion d'égratigner un peu encore une fois mon club de cœur, qui a brillamment perdu 1-3 face à Lorient. Alors Lorient, c'est la bête noire, entre guillemets, je mets des guillemets, c'est vrai que Lorient réussit souvent au Parc des Princes, mais enfin, quand vous avez 8 points d'avance en championnat, que vous n'avez plus rien d'autre à jouer, c'est pas possible de proposer une copie de match aussi indigente. Le PSG ne compte plus que 5 points d'avance sur l'Olympique de Marseille, qui lui a le couteau entre les dents, et je ne serais pas tout à fait surpris que les choses ne se passent pas finalement exactement comme on l'avait imaginé il y a quelques semaines encore. Le PSG pourrait gagner le 11e titre de son histoire et devenir recordman, mais il me semble que si Marseille gagne le titre, ce qui n'est pas impossible, et ben les Marseillais gagneront leur 10e titre, et alors on aura 3 clubs à égalité, l'OM, Saint-Etienne et le Paris Saint-Germain. C'est à suivre, mais en tout cas, voilà, mon petit coup de griffe était pour le Paris Saint-Germain.
Et comment tu expliques, si on peut se permettre d'intervenir, comment tu expliques ce qui est en train de se passer au PSG, qui de l'extérieur reste quand même difficilement compréhensible?
Oui, je pense qu'il y a quelques éléments objectifs qui sont que les joueurs sont usés physiquement parce qu'ils ne sont pas tous de première jeunesse, qu'il y a des blessés qui sont assez sérieux et de longue durée. Donc il y a un effectif qui est finalement assez limité, même si c'est bizarre de dire ça quand on voit les noms. Mais enfin, Neymar est out depuis 2 mois. En attaque, ils n'ont que, alors encore je mets des guillemets, Messi et Mbappé. Mais Messi, il est fatigué. Non, mais c'est...
Mais est-ce que la Coupe du Monde n'aurait peut-être pas fait beaucoup de mal au PSG?
Je pense que la Coupe du Monde a fait beaucoup de mal au PSG. On a vu la différence de niveau et la différence au niveau des résultats. Lionel Messi, c'est un joueur fabuleux, le plus grand sans doute de tous les temps. Mais moi, je peux comprendre que mentalement, après avoir atteint le sommet que constitue pour lui la victoire en Coupe du Monde, eh ben, il soit moins motivé pour cette fin de saison.
C'est dur de se motiver un match contre Lorient. Hein.
C'est dur de se motiver, voilà, et quand vous faites siffler un petit peu de temps en temps, voilà, je pense qu'ils prennent un peu tout par-dessus la jambe, ils considèrent que le titre est dans la poche, et donc bah, ils se laissent un peu aller. Et ben, ce sera tant pis pour eux si ils réussissent pas à gagner le titre à la fin de saison. C'est parti pour on reprend le cours normal de notre édition, et je vous propose qu'on commence bien sûr par du football belge. J'allais vous dire qu'on allait commencer par la Jupiler Pro League, mais on va plutôt commencer justement par cette finale de Coupe de Belgique qui opposait l'Antwerp, qui pour rappel a terminé 3e de la phase régulière et donc en course pour aller chercher le titre. Le match opposait l'Antwerp à Malines, qui a terminé de son côté à la 13e place. On peut dire que pour atteindre cette finale, les deux équipes ont connu des parcours assez différents. Malines, ça a été plutôt
facile,
hein. Lokeren en 16e, Seraing en 8e, Courtrai en quart, et Zulte-Waregem en demi. Deux équipes qui descendent en D1B et une équipe amateur. De son côté, l'Antwerp a eu une tâche beaucoup plus compliquée. Le matricule 1 a battu Beveren en 16e au tir au but.
Un derby.
Voilà. Puis ensuite, ils ont éliminé le Standard en 8e, Genk en quart et l'Union en demi. Là aussi au tir au but, c'était plus costaud. Et c'est sans réelle surprise le Great Old qui a remporté le trophée grâce à une victoire 2-0, des buts de Janssen sur penalty et Balikwisha en fin de rencontre. Alex, je crois que comme tu l'as dit, on a senti des équipes qui étaient peut-être un peu crispées par l'enjeu, non ?
C'est surtout l'Antwerp qui était crispée par l'enjeu, d'après moi, et Malines qui ne s'est pas forcément montré beaucoup plus. Donc, tu avais un match relativement insipide avec l'Antwerp qui faisait ses longs ballons d'Alderweireld vers une attaque et qui était interceptée par la défense malinoise. Et donc, jusqu'au moment où il y a une erreur du côté de Malines qui entraîne le pénalty, tu n'as pas vu grand-chose. Mais après, l'Antwerp gagne logiquement le rapport de force. Et je pense que de l'autre côté de la table, ici, ça fait plaisir.
Ça va faire plaisir. Juste, oui, une petite précision. Malines a frappé 12 fois au but, ce qui est quasiment comme l'Antwerp, sauf qu'ils n'ont pas cadré une seule fois. S'ils avaient cadré, ils seraient tombés sur celui qui est considéré peut-être comme le meilleur gardien du championnat, Jean Buté. Jean Buté qui a d'ailleurs eu droit à un joli article dans l'équipe, c'était la semaine dernière je crois, où on vantait sa belle saison et son rayonnement en Jupiler Pro League. Ça fait plaisir de voir que les journaux à grand tirage français regardent aussi la Jupiler Pro League. Tu disais, Alex, que ça avait sans doute fait plaisir à Steve, cette victoire anversoise. Pourquoi ? Parce que ça libère, visiblement, ça va libérer une place, en tout cas, on va se passer du match qui aurait dû opposer le quatrième du play-off 1 au premier du play-off 2, et qui aurait donné droit à un ticket pour le deuxième tour préliminaire, je crois, de la Conference League. Donc le cinquième sera directement qualifié.
Bah oui, ça change quand même sérieusement la donne. Hein. Ça veut dire que les gens qui se battent en play-off 2, c'est pas pour avoir droit à un test match pour jouer l'Europe. Ça veut dire que ça donne le droit à l'Europe. Alors oui, c'est des tours préliminaires, etc. Okay. On sait que ça va être une année un peu compliquée en termes européens pour la Belgique l'année prochaine. Mais ce sera une année de transition parce que les bonnes campagnes de l'année passée et de cette année, n'en parlons pas, permettront nous ont permis de remonter au classement UEFA et ainsi avoir des qualifiés plus directs, notamment en Ligue des Champions. Donc ça va donner un peu d'air et c'est l'année prochaine que ce sera dur. Mais honnêtement, ça, les playoffs 2 étaient déjà intéressants parce qu'ils donnaient droit à un test match. Je pense que là, il y a encore plus de raisons de se battre, c'est-à-dire que ce n'est pas hypothétique, ce n'est pas conditionnel. Mais là où j'étais, pour rebondir sur ce que tu disais, on doit être content de l'autre côté de la table, donc je dois être content pour le Standard. En tout cas, dans l'hypothèse où ceci devait gagner les playoffs 2, ce que évidemment je souhaite. J'appelle toujours playoff 2, mais c'est European playoff. Hein.
C'est plus sexy.
J'appelle aussi division 2, moi. Aussi.
Là, c'est Challenger Pro League.
Mais je suis avant tout content pour l'Antwerp. Pas que ce soit un club que j'apprécie pleinement, mais je trouve qu'en football, quand quelqu'un gagne une compétition parce qu'il le mérite, c'est voilà, je suis plutôt heureux pour eux et tu as rappelé Sam leur parcours chapeau, ils ont éliminé deux clubs qui sont en play-off 1, mais non, en Champions play-off. Ils vont être contre eux, donc vraiment, même si c'est au penalty, ça n'enlève absolument rien à leur mérite. Chapeau à eux et ils ont bâti vraiment, je trouve cette année une bonne équipe, peut-être pas la plus séduisante. Mais une équipe bien balancée, une équipe de tauliers et une équipe qui fait peur à tout le monde. Et finalement, si je pouvais espérer que pour le bien de tous ceux qui sont derrière, qui puissent gagner cette Coupe de Belgique, je les crains quand même très, très, très sérieusement dans cette dernier match de championnat parce qu'ils n'avaient pas besoin de la Coupe pour montrer qu'ils étaient des sérieux prétendants au titre parce que leur pic de forme est vraiment, vraiment là. Mais là, je crois, je n'ai pas dit je crains, je crois en tout cas que ça va sérieusement galvaniser leur future prestation, de savoir qu'ils peuvent jouer complètement libérés maintenant et auréolés du seul trophée qui pour le moment a été attribué en Belgique en 2023.
Hein. Ce qui peut avoir l'effet inverse aussi en fait.
On va en parler tout à l'heure, je voulais juste, sans manquer de respect à Malines, je trouve que du coup le fait qu'on ait forcément le cinquième qualifié, bon, le fait, pour le coefficient belge en UEFA, il est préférable d'avoir les quatre clubs actuels qui sont en Champions Playoff, plus la Gantoise ou le Standard, plutôt que Malines. Bon, on sait jamais ce qui peut se passer, bien sûr, mais c'est vrai que sur le papier...
L'Antwerp s'est fait éliminer en préliminaire, ouais. Je pense.
Ils ont fait un petit tour
contre un club turc que tu connais bien, oui, qui était censé être beaucoup plus faible qu'eux.
Pas nécessairement, mais après, Gant les a quand même étriés 1-4, mais... Cette théorie que les grands clubs feront toujours mieux, on a vu l'Union cette année, ce qu'ils ont presté en Coupe d'Europe qui était quand même chapeau, on a eu l'Aukeren il y a quelques années qui a quand même été chercher pas mal de points aussi, et avant ça on a Zulte Waregem qui s'était qualifié pour le deuxième tour de l'Europa League dans un groupe très spécial avec l'Ajax, si je me souviens bien, pour se faire éliminer par Newcastle après. Finalement, les petites équipes ont une énorme motivation aussi à jouer la Coupe d'Europe. Donc, Malines, peut-être que ça aurait fait quelque chose. On ne peut pas s'y attendre.
Et Malines, voilà. C'est une de ces équipes du ventre mou belge qui, en fonction des années, peuvent être plus ou moins performantes.
Et qui a une tradition en Europe.
Oui, tout à fait.
Le match se déroulait dans un stade du Ezel rénové. Il y a eu des travaux qui ont été entamés, plus ou moins.
Entre guillemets, rénové.
Voilà. Depuis janvier, les vestiaires, la tribune de Pires, les sièges ont fait l'objet de travaux de rénovation. Ça permet de mettre le stade aux normes UEFA. Tu me dis, et la piste d'athlétisme va être également changée pour être elle aussi aux normes de World Athletics et pouvoir accueillir dignement le prochain Vandamme Memorial. Tu me disais, Alex, que effectivement le stade est désormais aux normes pour un match UEFA, mais pas pour ce qu'on appelle un événement UEFA. Le Heysel ne pourrait pas, sans doute pas accueillir, en tout cas une finale de Coupe d'Europe encore en l'état, mais par contre, on peut penser que les matchs de Ligue des Champions ou de Ligue Europa, je pense à l'Union qui est un club sans stade aux normes, ces matchs-là, ils pourraient être accueillis au Heysel.
En théorie, oui. Après, l'Union avait demandé à Ostende de jouer des matchs préliminaires là-bas, puisque Zulte Waregem ne voulait pas. Il faudra voir avec Louvain, il faudra voir avec la commune d'Anderlecht, qui est la même zone de police. Et alors, éventuellement, effectivement, il y a le Heysel. Maintenant, il faut savoir, pour une finale UEFA, il y a un cahier des charges énorme, et surtout un nombre de places minimum, mais surtout une infrastructure. Et là, le stade du Heysel était obsolète depuis plusieurs années, rien que par ses sièges, qui n'ont pas les normes, ou qui n'avaient pas les normes de sécurité adéquates pour un match UEFA. Après, tu as une dérogation, tu as plusieurs moyens d'y arriver, un peu politico-technique.
Enfin, ils n'ont pas obtenu de dérogation pour l'Euro 2020-21.
Ah non, il fallait pas.
Non, mais donc ils n'ont pas obtenu.
Non, je veux dire, ils étaient hors de course.
Ils pensaient qu'ils obtiendraient une dérogation parce que Bruxelles est Bruxelles, mais
oui, toute mais capitale de l'Europe qu'est Bruxelles, aucun match n'a pu être disputé.
Ça aurait été scandaleux de voir des matchs à Bakou dans des stades magnifiques ou même à Bucarest, et puis te retrouver avec un stade du Heysel vétuste. Et sur Sportima et sur LinkedIn, il y a quelques semaines, j'avais encore posté également une analyse. Tu es 29 ou 30e en Europe côté stade, et je parle du pays, dans les villes voisines qu'on peut comparer en termes démographiques, que ce soit Lille, que ce soit Munich, que ce soit Amsterdam, ils ont un stade qui est parfaitement aux normes, qui peut accueillir des finales de tournois européens. Ici, en Belgique, tu peux accueillir une équipe qui joue un match de Coupe ou d'Europa League ou de Conference League. Ouais. Il y a un sérieux problème. Tu es la capitale de l'Europe, tu n'as pas un stade polyvalent pour faire quoi que ce soit. Et là, OK, la ville de Bruxelles a investi, je pense, 6 millions de mémoire, parce que je n'ai pas étudié le sujet pour venir ici. Mais ton stade est aux normes pour un match. Il n'est pas aux normes pour plus. Et ça, c'est triste. Après, ça te fera plaisir, Sam. La dernière finale européenne au Heysel, tu l'as gagnée.
Exactement.
C'est vraiment inquiétant parce que c'est à mettre de manière générale. Il n'y a plus. Anderlecht voulait la rénovation ou partir. L'Union veut un nouveau stade. Le RWDM avait aussi un certain nombre d'ambitions. Il y a le stade national. On est incapable, pour le moment, de faire un projet d'envergure qui soit le projet de construction ou de rénovation d'un stade. Alors, on me dit, et peut-être à juste titre, on ne peut pas avoir autant de chantiers à la fois dans une ville, on ne peut pas avoir autant de stades différents dans une ville, dans une petite ville qui est Bruxelles. Je l'entends et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut pouvoir réfléchir. Mais le problème, il est plus profond que ça. Il n'est pas seulement à la rationalisation des stades en disant que oui, l'Union et Anderlecht vont jouer dans le même stade. Ça peut poser des problèmes, mais quand on y réfléchit, ça a quand même un vrai sens. Par contre, et ça ne suffit pas pour vous dire qu'on résout le problème d'avoir un stade moderne. On a créé un stade, on a remis sur pied de fond en comble un stade il y a 20 ans, il y a 23 ans. 10 ans après, ce stade n'était plus. Alors, on n'avait vraiment pas du tout pensé à long terme. Alors on me dit, oui, les normes ont forcément changé, oui, les normes ont changé, mais dans les autres pays, on s'est adapté. Ouais. Donc, ici, on discute, mais il n'y a rien. Alors j'entends qu'on ne peut pas faire 4 chantiers à la fois, mais faisons déjà un, c'est ça. Et faisons le bien.
Parce qu'il fallait déjà le faire il y a quelques années. C'est... Après, pour rebondir sur ce que tu disais, l'Euro 2000 a été attribué à la Belgique et aux Pays-Bas parce qu'il n'y avait aucun autre candidat pour accueillir le tournoi. Ça, c'est une chose. Donc déjà, dans étant l'UEFA, tu es obligé d'accepter un patchwork comme Charleroi, comme Bruges, comme le Heysel. Et de l'autre côté, tu avais un stade Vitesse Arnhem qui a été construit pour l'événement, qui est aux normes aujourd'hui, même s'il a 25 000 places, ainsi que de Cup, que le stade de PSV et le stade de l'Ajax. Le stade du Heysel était obsolète lors de l'organisation de l'Euro 2000. Et je compare souvent, et on l'a déjà entendu et je me répète, le Portugal n'était pas qualifié pour la Coupe du Monde 98. Il y a eu une réforme totale des championnats, des jeunes, des académies, donc, des stades, du fan management, comme on l'appelle actuellement. Et tout a été pensé pour que ces stades là-bas soient aux normes pendant des dizaines d'années. Et ce n'est pas par hasard que le Final Four Champions League Covid, il y a 3 ans, a été organisé à Lisbonne. Tu as 2 stades à Lisbonne qui peuvent accueillir 2 événements majeurs UEFA
Ouais.
En Belgique, tu ne sais même pas organiser un match. Donc, il y a une volonté politique à mettre dans un stade, et ce n'est pas par hasard que certaines personnes d'Anderlecht, ou de la politique plutôt, soient au conseil d'administration d'Anderlecht. J'invite Anderlecht à y réfléchir, à aller jouer dans un stade hyper moderne au Ezel, et séparer un peu les clubs dans la capitale. Et là, tu as un stade qui accueillera 20-25 événements sportifs par an, plus les Diables Rouges, plus d'autres événements. Ton stade sera rentable sur très court terme.
Très bien, bah écoutez, je pense que le message est bien passé. Il faut un stade moderne en Belgique. Je pense qu'on aura l'occasion de faire peut-être une émission spéciale infrastructure un de ces jours, parce que c'est vrai que c'est l'outil de travail en football comme ailleurs est essentiel à de bons résultats. Je vous propose maintenant qu'on passe au play-off, le Champions Play-off à tout seigneur, tout honneur. On débute par le leader Genk qui était opposé au club de Bruges. Alors voilà, deux équipes qui ont connu ces dernières semaines des dynamiques bien différentes, puisque Genk a vu son avance en tête du championnat fondre comme neige au soleil, au point qu'ils ont terminé avec le même nombre de points que l'Union. Ils sont devant grâce à la différence de but, mais voilà, ils avaient une substantielle avance qu'ils ont laissé filer. De son côté, le club de Bruges a eu une saison que ça allait K1-KA, et ils sont parvenus à redresser la barre en fin de championnat et ils terminaient la semaine passée sur un feu d'artifice. Ils avaient gagné 7-0 face à Eupen. Alors on se demandait, et on l'avait dit ici la semaine passée, on se disait que ce premier match serait sans doute révélateur des ambitions de chacun dans cette fin de championnat. Et c'est Genk qui l'a emporté 3-1 et qui a douché sans doute définitivement le peu d'espoir que pouvaient encore nourrir les Brugeois de conserver leur titre de champion. Alors la question que je vous pose, c'est: Genk vous a-t-il rassuré forcément après ces quelques semaines d'errance, et du coup Genk se pose-t-il comme le plus sérieux candidat au titre aujourd'hui? Steve, tu veux commencer?
Oui, en tout cas, il y a deux enseignements vraiment majeurs pour moi de ce match. On va peut-être laisser Bruges sur le côté pour le moment, on en reparlera. Je trouve que Genk a frappé un grand coup. Il y a d'abord la victoire incontestable, mais il y a la manière. Ceux qui ont vu le match cette deuxième mi-temps, c'est un festival offensif digne de ce que Genk nous avait proposé en première partie de championnat. Tout Alors on s'est tous posé légitimement la question de savoir, est-ce que Genk n'a pas eu son pic de forme trop tôt, et son coup de mou allait-il être un coup de mou qui faisait qu'ils allaient définitivement éloigné d'être un candidat au titre? Ils ont montré, en tout cas, on sait bien que la logique peut changer d'une semaine à l'autre, mais en tout cas, ils ont montré hier qu'ils étaient pleinement candidats et qu'ils étaient le premier des candidats au titre. Leur force vive, Pencil en tête, tournent à plein régime. Ils ont donné le tournis à cette défense brugeoise. Ils ont été excellents sur les phases arrêtées.
Ouais.
Vraiment excellents. Alors certes, on me dit, oui, mais la défense de Bruges joue en zone. On sait que ça peut paraître toujours d'être un peu bizarre sur les phases arrêtées de jouer en zone maintenant. Mais enfin, tout de même, c'est vrai que comme ils arrivent trésor de deuxième ligne comme ça, c'est en échappant à tout marquage, c'était absolument incroyable.
Oui, et c'est vrai.
Et il y avait aussi, je trouve, dans ce stade, alors c'est pas le stade où il y a le moins d'ambiance, mais c'est pas non plus le plus gros chaudron, mais là, il y avait une de ces ambiances. On sent que tout le monde est tourné vers cet objectif. Et Genk a posé sa griffe là, a montré si quelqu'un d'autre veut être champion que lui, il va falloir aller les chercher très sérieusement.
Et tu parlais des coups de pied arrêtés, une mention spéciale pour Mike Trésor qui a fait un super début de championnat, qui a eu, à l'image de son club, il a été un peu plus discret à un moment, et là il a fait un match fabuleux. Notamment tu parlais de le but sur coup franc où il vise la zone, il sait où il va mettre le ballon à ses joueurs de couper. Et là c'est McKenzie qui avait coupé, ou sur celui d'avant, mais quel pied il a, quel vista aussi. On avait parlé futur diable rouge,
il était très déçu, hein, ouais. Il avait dit, et la direction de Genk s'en était pris, j'avais été assez étonné.
Ce qui n'était pas très mal, hein,
oui. Dimitri de Condé qui était sorti dans la presse pour indiquer qu'il ne comprenait pas, qu'il y avait des problèmes de lien avec l'Union Belge. Je pense qu'il peut tout à fait le penser, je ne suis pas sûr que c'était très intelligent à dire, parce que son tour viendra, ça me paraît plutôt évident dans une équipe belge qui est en pleine refondation, exactement. Ouais. Ce type de joueur, évidemment, profil unique à en tout cas, mérite sa chance.
Ouais. Mmh. Alex, qu'est-ce que tu as pensé? Je sais que tu es plutôt noir et bleu, mais tu as dû...
Oui, j'ai vu le match avec un grand désarroi. Mais Mike Trésor, effectivement, c'est une superbe patte. C'est pas par hasard un de tes meilleurs joueurs du championnat. Après, si Mechelen ne dort pas, il n'y a pas but. Mais Bruges, en fait, a fait comme d'habitude. Je trouvais le début de match, le premier quart d'heure du club de Bruges, très intéressant, avec un superbe but d'ailleurs, une très très belle combinaison, belle frappe de Van Aken. Enfin, il fait quelque chose. Et ensuite, c'est comme du flan, ça, c'est tassé, je ne sais pas. Il y a de nouveau, ils se sont crus de nouveau trop beaux, trop forts. Et face à Genk, qui j'avais déjà dit il y a quelques semaines quand ils avaient étrié Anderlecht, pour moi, à ce moment-là, ils étaient déjà de retour dans la course. Ouais. Ils avaient retrouvé leur forme. 2-2 à Charleroi, c'est pas pour rougir non plus. Certainement un Charleroi qui lutte pour se qualifier pour les play-offs 2, comme l'appelle Steve. Mais Genk a joué comme ils ont joué le reste de la saison. Et effectivement, c'est une très belle prestation. Ils vont à l'Antwerp la semaine prochaine. Et après, il y aura le back-to-back face à l'Union qui sera déterminant pour moi pour le titre ou quasiment. Oui. Un peu comme l'année passée, Union-Bruges était aussi en back-to-back.
C'est ça. Un mot sur Pencil aussi, qui est redoutable sur son côté. On craignait, moi le premier, que Genk se soit fortement affaibli en vendant Onuachu au Mercato. On en a parlé ici, il y a des offres qui ne peuvent pas se refuser à certains moments. Et donc ils ont vendu Onuachu. Pencil est lui... déterminant et décisif ces derniers temps. Il y a eu un but, je ne sais pas si vous... qui a été refusé à un moment.
Oui, si, si.
Qui est assez curieux, moi, je trouve, puisqu'il y a eu hors-jeu. Il y a eu effectivement un hors-jeu, puis le jeu a continué. Bruges a récupéré la balle, mais visiblement pas suffisamment longtemps pour qu'on considère que c'était toujours la même action
de jeu. Cette phase a pris un temps fou, non?
Ouais. Il y a eu 7 minutes, je crois, temps supplémentaire, parce que ça a duré peut-être 5 minutes. D'abord, donner un hors-jeu, puis
hors-jeu. Genk ne s'est pas du tout laissé démonter. Tu disais, Onuachu est parti, mais il faut se dire, je pense que j'ai déjà dit dans cette émission, la direction de Genk, il y a une vraie continuité. C'est des gens, enfin, on a l'impression qu'ils savent vraiment ce qu'ils font. Ils ne sont pas là seulement pour enflouer les caisses, parce qu'ils en ont besoin comme n'importe quel club belge, mais il y a un remplaçant, il y a un projet derrière. Et j'étais aussi inquiet que toi au moment où il était vendu, en disant
c'était le meilleur buteur du championnat, inquiet pour eux.
Mais voilà, ils avaient l'air en tout cas de savoir ce qu'ils faisaient.
Ils ont fait rentrer de l'argent dans les caisses et ça n'a pas vraiment atteint le niveau, en tout cas pas suffisamment pour que les espoirs de titre s'envolent. On va parler, si vous avez autre chose à dire sur ce match-là.
Mais peut-être Bruges. Moi, je faisais partie de ceux qui disaient, je suis toujours peut-être déformé, je vous le disais avant l'émission, de cette remontada du Standard en 2011 qui était sixième des playoffs avec je ne sais plus combien de points de retard à l'époque où il y avait les playoffs où ça s'appelait vraiment playoff 1 et où il y avait 6 équipes et où ils ont tout gagné sauf un match nul. Ils avaient tout gagné, donc c'était absolument incroyable. Et ils sont à égalité avec Genk le dernier match. Ils doivent terminer, ils gagnent 0-1, donc ils sont champions. Et puis il y a eu ce Karchela qui se prend ce coup, et puis pour l'histoire, et puis cette égalisation, son nom va me revenir.
Kennedy.
Oui, c'est lui qui égalise. Et donc, Genk, ils ont le même nombre de points, mais Genk, vu qu'il était premier en play-off 1, était en phase régulière. Et je m'étais dit, tiens, est-ce que Bruges va nous jouer un coup à la Standard 2011 parce que ils sont peut-être galvanisés, parce que quoi qu'on en dise, même s'ils ont connu depuis 5 ans certainement leur pire championnat, ça reste quand même une équipe super qualitative.
Depuis 20 ans.
C'était
la finale de coupe contre le Standard où Ishiaku marque et Bruges était 6e cette année-là, donc c'est un peu masqué la donne. Je pense que c'était en 2006, donc ça fait 17 ans.
Et donc je m'étais dit, tiens, est-ce que ça va, mais voilà, et il y a plusieurs commentateurs qui se posaient la question, qui disaient est-ce qu'ils peuvent jouer ce rôle, ils avaient 8 points de retard, hein, donc divisé par 2, donc ça reste 8 points, ça reste énorme lorsqu'il n'y a que 6 matchs. Mais voilà, là je pense que les espoirs sont douchés à la fois au niveau mathématique et au niveau qualitatif. Je pense que Genk a montré là que que Bruges n'avait pas, pas malheureusement pour eux sa place pour se battre pour le titre cette année.
Alors, donc Bruges connaît sa première défaite en play-off. Genk gagne et donc prend le leader, conserve le fauteuil de leader, mais accentue son avance de 3 points sur l'Union. En attendant le deuxième match, puisque évidemment, comme l'Antwerp jouait la finale de la Coupe, il n'y a pas eu de deuxième match de play-off ce week-end. Ça aura lieu mercredi et ça opposera donc au Stade Marien l'Union Saint-Gilloise à l'Antwerp. Alors justement, il y a deux choses. D'un côté, l'Antwerp peut être galvanisé par sa victoire, avec aussi en perspective un exploit. Celui de réaliser un doublé coupe championnat qui, si je ne m'abuse, est très rare et qui aurait, si j'ai bien vérifié, j'ai bien travaillé, a été réalisé seulement à 7 reprises et la dernière fois c'était Bruges en 95-96. Alors,
avec Hugo Brose.
Alors il va avoir ça en perspective parce qu'après tout ils n'ont avant joué ce match que 5 points de retard sur Genk et donc en cas de victoire à l'Union il ne serait plus qu'à 2 points derrière Genk. Ou est-ce que vous pensez qu'au contraire, ils auront été fatigués ou pas ? Moi, personnellement, je ne pense pas que ce soit suffisamment important sans manquer de respect à la Croquis Cup pour qu'ils perdent le fil de leur saison après une victoire comme ça. Je pense que Toulouse, par exemple, risque d'avoir des lendemains qui déchantent en championnat, mais ce n'est pas très grave. En revanche, l'Antwerp est trop concerné par la fin de championnat pour lâcher.
Peut-être, mais je ne pense pas que l'Antwerp a un groupe suffisamment mature pour aller à 100% jusqu'au bout pour le titre. Après, c'est très, très, très compliqué d'avoir une analyse, de ne pas savoir comment fonctionne ce groupe au quotidien également, et comment est-ce que Van Bommel avait préparé ses troupes. Parce que l'Antwerp, faut pas oublier, ils avaient très, très bien commencé aussi leur championnat. Mais après, Van Bommel, est-ce qu'il a misé sur la coupe psychologiquement avec les joueurs? Est-ce que c'était ça leur objectif? Parce que ça reste un trophée qui termine deuxième, troisième ou quatrième. Tout le monde s'en fout, pour ainsi dire. Mais la Coupe est un trophée et c'est leur deuxième trophée depuis qu'ils sont remontés en D1 il y a 6 ans. Et ça c'est essentiel pour l'Antwerp et le management de l'Antwerp.
Ils ont maintenant une place assurée en Coupe d'Europe. C'était pas nécessairement le cas avant, puisque bon, maintenant que Bruges a perdu, ça aussi, ça leur donne un petit coussin d'air. Mais si Bruges avait gagné, il n'aurait été qu'à 3 points derrière. Et voilà, ils pouvaient jouer ce match qui n'aura pas lieu entre le 4e et le 5e. L'Union a eu le temps de se reposer, peut-être. Il y a eu une affaire dans le staff. On a eu des petits changements, je crois, avec l'entraîneur des gardiens à qui on a montré la porte. Bon, mais ça, c'est anecdotique.
Attention, dans un groupe.
Oui, c'est ça. Ça peut un équilibre de groupe. Bon, c'est pas quelqu'un, je crois, qui était là depuis très, très longtemps non plus. Mais
Logan Bailly était arrivé en début de saison et il a été remplacé tellement étrange par quelqu'un qui vient de Saint-Tron. Donc, je crois que c'est la 20e personne.
Et donc, les unionistes, c'est leur deuxième saison d'affilée à ce niveau-là, du Champions Playoff. Ils ont connu les désillusions la saison passée, puisqu'ils se sont fait battre, coiffer au poteau par Bruges. Ils auront appris, pensez-vous, de l'expérience de l'année passée pour pouvoir rester tout de suite dans la roue de Genk et pas laisser...
Je pense certainement. Moi, j'ai d'abord un coup de gueule. Je suis vraiment dégoûté du calendrier tel qu'il a été fait, de voir jouer maintenant mercredi l'Union, qui rejoue après contre Bruges samedi, 72 heures après deux matchs d'une importance capitale, alors même que les concurrents, alors on dirait que l'Union a eu un peu plus récupéré, mais je comprends pas ça. Je comprends pas. On n'est pas une année d'Euro, on n'est pas une année de Coupe du
Monde. Enfin, si, justement, si. On est dans l'année de Coupe du Monde, donc championnat était de manière hybride.
Oui, d'accord, mais quelques jours en plus, j'ai beaucoup de mal à comprendre. Normalement, le week-end de Coupe de Belgique, le week-end de Coupe de Belgique est un week-end de Coupe de Belgique. Là, on a tout voulu centrer, ce qui fait que on décale complètement le calendrier. Oui, j'aime bien, honnêtement, qu'on la joue, vraiment à la régulière dans les playoffs. Il y a suffisamment d'éléments. Je disais encore une interview qui disait, de toute façon, quand on va à l'Antwerp ou à Bruges, on sait de toute façon qu'avec l'arbitrage, c'est fini, plusieurs clubs qui le disent. Il y a quand même trop de suspicions que pour commencer à se dire, on fait un calendrier qui est égalitaire. Et il y a certainement peut-être des choses qui m'échappent, mais je ne comprends pas comment on arrive à ce système-là. Je trouve dommage que de devoir jouer en 72 heures, deux matchs décisifs, deux des 6 matchs. Hein.
C'est ça, c'est un tiers des matchs.
Donc ça m'énerve relativement fort. Alors si tu me parles par contre de l'Union, je pense que l'Union est plus mature. clairement, que l'Union a, en fait, étonnamment, on ne l'aurait peut-être pas dit il y a 10 mois, l'Union a une meilleure équipe. L'Union a une meilleure équipe parce que, clairement, Boniface est bien meilleur, est meilleur qu'Undav, en tout cas, est plus complet. Et bon, voilà, on sait que ça, ils ne vont certainement pas le garder parce que c'est vraiment un joueur de top. Et on sait que Nielsen a été parfaitement remplacé. Je pense que l'Union est plus fort. Par contre, je pense que l'Union risque d'être derrière Genk Antwerp. Parce que je pense que leur pic de forme, eux, a été un peu avant, on l'a vu, hein, déjà, dernière partie, c'est au caractère qu'ils ont gagné les matchs, mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup gagné les matchs au caractère. Hein.
Ils ont souffert aussi.
Compris contre Courtrai, le dernier, c'est au caractère.
Tu as la Coupe d'Europe qui a coûté énormément d'énergie, même si elle a rapporté beaucoup d'argent et de points, ce qui va satisfaire. Mais ça, côté énergie, il faudra voir comment aborder ce premier match. Et alors, côté psychologique, comme tu le dis aussi, parce que, bon, il ne faut pas oublier, Lens, il joue à Toulouse demain soir. Donc, Lens est handicapé dans sa course à la première, deuxième, troisième ou quatrième place de championnat par la finale de Coupe de France également. Donc, ce n'est pas un problème belgo-belge, c'est un problème général FIFA dû à la Coupe du Monde au Qatar. Donc, c'est dans tous les pays la même chose. Mais est-ce que les 10 jours... Est-ce que ça a servi plus à récupérer ou plus à penser, à songer à la course vers le titre? Ça, c'est les prochaines semaines, nous le dirons.
Et toi, tu les vois? Parce que bon, moi, je me mouille un peu. Mais dans le fond, ayant une petite affection pour l'Union, j'espère qu'évidemment de me tromper. Mais j'ai cette impression, quand je vois la pleine bourre de Genk, quand je vois comment l'Antwerp est galvanisé, et quand même, je dis, bon, contrairement à Genk, l'Antwerp, c'est pas toujours très beau à voir.
Hein. Mmh. Mais c'est très efficace.
Mais c'est diablement efficace, hein, avec un super gardien, avec une défense correcte, et ça marque. C'est vraiment efficace. Et ils ont toujours eu des bons coups du sort aussi, quand il fallait. Non, ils jouent vraiment avec une...
Moi, je pense un bon groupe et une bonne chance. Tout est possible pour l'Union.
Mais je sens quand même que Genk et l'Antwerp m'ont l'air... en tout cas, en ce début, hein, un petit cran au-dessus.
Et comme on le disait, tout peut rapidement tourner dans ce play-off. On en saura plus donc après-demain, mercredi soir, au Stade Marien, où l'Union Saint-Gilloise recevra l'Antwerp. Je vous propose qu'on descende d'un étage, si on peut dire, et qu'on passe quelques instants sur le play-off Europe. Les deux matchs qui se sont déroulés, c'est la course à la cinquième place, comme on l'a dit, elle est désormais... encore plus importante puisqu'elle offre un accès au deuxième tour préliminaire de Conference League. On rappelle que cette première journée, les quatre équipes, avancent cette journée, se tenaient vraiment dans un mouchoir puisque la Gantoise et le Standard comptaient, après division des points, 28 points chacun, le Westerlo 26 et le Cercle 25. Vendredi soir, la Gantoise recevait Westerlo. Après un départ timide, les Gantois se sont bien réveillés en seconde mi-temps et l'ont emporté finalement 3 buts à 1. Quant au Standard, disons que ce n'est pas un match qui restera sans doute dans les mémoires, puisqu'ils se déplaçaient samedi au Jan Breidel Stadion pour y défier le Cercle, et ils ont fait un 0-0 face à une bonne équipe quand même du Cercle. On ne l'a peut-être pas suffisamment souligné, mais depuis septembre et la nomination de Muslic, ils sont quatrième, je crois qu'ils ont fait ils seraient quatrième si le championnat avait commencé à ce moment-là. Donc c'est pas finalement un si mauvais résultat que de ne prendre qu'un point. C'est juste au niveau comptable où voilà, ils laissent la Gantoise prendre
le match. Le match était cata. Hein.
Ouais.
Le match était pas terrible. On a coutume de dire que un 0-0 ne reflète pas toujours l'intensité d'un match. Là, il le reflétait pleinement. Hein. En tout cas, le 0-0.
Bon, moi, ce qui m'a surtout frappé, outre les résultats de Gand du Standard, c'est le stade de Gand qui était vide vendredi soir pour l'ouverture des playoffs européens. Moi, c'est ça qui m'a frappé aussi.
On ne savait pas encore qu'il y avait une place garantie. Non, je pense que de manière générale...
Non, mais il y a une grosse déception du côté de Gand aussi. Après, c'est ta propre faute quand tu te fais... sans mauvais jeu de mots, tu te fais mener en bateau par Ostende.
En tout cas,
la prochaine journée de ce play-off Europe sera sans doute déjà décisive.
Non, mais il faut se dire aussi qu'on
Standard recevra la Gantoise.
On a quatre clubs à des situations complètement différentes. On a la Gantoise qui est extrêmement déçue d'être là. On a le Standard qui est, pas qu'il est content d'être là, mais il est content d'exister. Et il est content de se battre sérieusement pour quelque chose, d'avoir quelque chose qui redonne corps à ce club. C'est ça le problème. C'est que ce club, c'est pas seulement qu'il ne gagne plus, c'est qu'il n'y a plus pas de projet dynamique, pas de projet positif. Et là, c'est créé, je pense que j'en ai déjà parlé clairement, très fort sur régime. Mais tant mieux, voilà. Ouais, enfin, en sur-régime, une vraie dynamique. Et puis on a Westerlo et Cercle de Bruges, bah, qui sont des clubs qui, je pense, sont
sympathiques.
Là, sont sympathiques, sont plutôt contents d'être là et vont jouer les arbitres.
Un dernier mot.
Ouais. Non, après, n'oublie pas, on avait parlé en début de saison de la reprise du standard par 777 Partners. Pour moi, tu es au-dessus des ambitions pour l'instant parce que tu as 3 ans, généralement, avant que ton club soit vraiment sur les rails pour répondre à tes ambitions. Donc pour moi, déjà jouer les Europe Playoffs et éventuellement jouer la Coupe d'Europe, tu seras en avance sur le planning. Donc ne soyons pas gourmands ou impatients.
Je parlais plus de l'atmosphère générale autour du club.
En tout cas, c'est une bonne chose pour le standard et ses supporters. Effectivement, le club est à se battre pour quelque chose de tangible. Je vous propose qu'on s'arrête là pour la Belgique. Et on va il boit un peu parce que ça va être à lui de parler. On va passer à la minute Sportimize. C'est le moment de s'intéresser à ce qui se passe en dehors du terrain avec la minute Sportimize qui n'a de minute que le nom puisque ce sera sans doute plus qu'une minute. Ce soir, Alex, on se tourne vers l'Allemagne et plus particulièrement vers Düsseldorf, je crois. Tu vas nous parler d'une tentative, d'une innovation au niveau business model. Qu'en est-il, mon cher Alex ?
Tout à fait. Donc, Düsseldorf, c'est un club de tradition en Allemagne, le Fortuna, qui joue dans un magnifique stade de près de 50 000 places, qui sera un des stades d'ailleurs de l'Euro 2024 dans un an et quelques semaines. Et Düsseldorf renverse un petit peu le système économique. Et on a eu leur directeur commercial et leur président qui ont parlé à la presse en fin de semaine dernière. Et ils veulent innover en proposant des matchs gratuits à leurs supporters.
D'abord, à l'heure où ça grogne dans pas mal de stades parce que les prix sont hyper élevés, c'est effectivement assez à contre-courant.
Donc tu as le prix des places a considérablement augmenté. Et il faut savoir, le ticketing est entre 10, 15, peut-être parfois 20% des revenus d'un club, dépendant de ses sponsors. Mais là, Düsseldorf trouve, et c'est souvent le cas en Allemagne car les clubs appartiennent en majorité aux supporters ou à des groupes de supporters. Ici à Düsseldorf, on veut leur rendre l'événement gratuit. Donc ça serait 50 000 places. Aujourd'hui, il y a entre 25 et 30 000 personnes qui vont assister à des matchs de deuxième Bundesliga, donc la deuxième division. Düsseldorf ne lutte plus pour une place pour monter, mais reste un club, comme je disais, de tradition avec 25 000 personnes. Ils veulent remplir leur stade, ce qui serait un atout peut-être pour monter l'année prochaine. Mais ici, c'est surtout le club où le foot appartient aux supporters, et donc ils ont trouvé des sponsors pour la saison prochaine pour offrir déjà 3 matchs à leurs supporters. Et le but serait, à terme, justement, de trouver des sponsors qui vont payer pour les supporters pour remplir le stade lors de chaque événement et surtout de leur offrir le match gratuitement. Alors la contrepartie est évidemment... En Allemagne, il y a 2 modèles. Il y a des modèles avec un ticketing assez bas mais du merchandising et du food and beverage qui est très haut, ou l'inverse, des tickets assez hauts et toutes les consommations sont très raisonnables, voire même bon marché. Donc est-ce que justement ce merchandising va augmenter en prix, ainsi que tout ce qui est nutrition et boissons, mais aussi combien d'activations en plus y aura-t-il des sponsors ? Est-ce que ce sera un sponsor par match qui va offrir des goodies, qui va offrir des choses aux supporters, ou qui va récolter des datas en échange ?
Écoute, c'est un modèle intéressant, comme dans parfois il y a des festivals de cinéma pour lesquels une séance est sponsorisée par une personne, une marque, XYZ, et effectivement ça rend les choses plus faciles. En tout cas, voilà une initiative très intéressante et qu'on suivra avec beaucoup d'intérêt. C'est donc à Düsseldorf qui espère proposer un modèle de match gratuit.
Vous connaissez, si je peux rebondir
bien
dessus,
sûr.
Si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Hein. Généralement, jamais rien n'est totalement gratuit. Et quand tu parlais de data ou autre, il y a forcément une contrepartie qui doit intéresser les investisseurs financiers, ce qui a un sens.
Il y a une contrepartie, mais il y a un revers de la médaille aussi, c'est le no-show. Et c'est surtout à quel moment est-ce que les sponsors vont vraiment s'immiscer dans ce projet. On a eu le Beerscut il y a quelques années qui proposait un sponsor par match. Finalement, le sponsor, il attendait le vendredi pour devenir sponsor parce que c'était à 70% de rabais et il avait beaucoup de visibilité. Donc ça a totalement foiré. Le club a fait faillite à cause de ça.
Merci Alex pour ce sujet très intéressant et qui donnera certainement lieu à des analyses dans le futur. Je vous propose, parce que le temps passe très vite, qu'on sorte de la Belgique et même de l'Allemagne et qu'on aille là où le football est encore un peu plus beau. J'ose le dire, le plus grand championnat du monde, la Première Ligue, dont le dénouement semble peut-être désormais écrit depuis la victoire éclatante de City sur Arsenal. C'était en milieu de semaine, mercredi, une victoire 4-1. Arsenal a été en tête pendant très longtemps dans ce championnat depuis la première journée. Ils ont craqué de ces derniers temps, des matchs nuls, et on le sait, les matchs nuls, ça ne rapporte qu'un point. Et vous faites trois. Quand la victoire ne rapportait deux points, si vous ne perdiez qu'un point, là vous en perdez deux. Et à coup de matchs nuls contre des victoires de City, eh bien l'avance a été rattrapée. Un match exceptionnel, tactiquement, pas pour une fois, mais on avait dit ici que parfois il tentait des innovations. Guardiola,
ça, c'est pas en Champions League que ça foire.
Voilà. Et là, il a su appuyer sur les faiblesses de son adversaire. Haaland, Thierry Henry, on avait parlé en début de saison en disant là où on voit la différence entre les très bons, et c'est quand un attaquant comprend ce qu'il peut faire quand il n'a pas le ballon. Ou quand il n'est pas un avançant, quand il n'est pas en position de marquer. Là, il a été un relais, il a été un pivot exceptionnel. Et que dire de Kevin De Bruyne, qui a été stratosphérique, encore une fois, j'ai envie de dire. Est-ce que Kevin De Bruyne n'est tout simplement pas le meilleur joueur du monde cette semaine? Non, pas cette semaine, mais cette saison. En tout cas, il a...
Pas sa Coupe du Monde. Hein.
Non, c'est ça. Il aura toujours ça. Peut-être que ça... J'allais vous parler Ballon d'Or s'il gagnait un peu tout. Il y a la Coupe du Monde qui fera forcément un peu d'ombre, mais parlons pas de ça.
Il n'aura pas, parce que c'est un peu politique. Comme Thibaut Courtois n'a quasiment jamais le meilleur gardien.
C'est vrai.
Il fait partie de ces gens. C'est vrai qu'il est irritant. Hein. Il est irritant, De Bruyne. Parce qu'il sait... Alors... Il a, c'est un bougon, c'est un râleur.
Mais okay, restons sur le match, la performance. Voilà. Parce que City est en train de réaliser quelque chose de grand. Ils sont portés. Guardiola disait à un moment, oui, il voulait pas, je crois, mettre trop le focus sur Haaland et De Bruyne.
Non, tu disais, c'est l'un ou c'est l'autre. Mais c'est la combinaison. Ça, on le sait. Hein. C'est la combinaison. C'est une combinaison super gagnante. On l'attendait en fait en début de saison.
Exactement.
On se posait la question, tiens, comment va être la cohabitation, comment ça va se passer. Et en fait, très rapidement, on va rappeler lors de son premier ou deuxième match, il marque 3 ou 4 goals. Je ne sais plus, Haaland avec des services de Bruyne. Et outre quelques petites périodes un peu plus down, ça a été absolument incroyable à deux. Et ils se trouvent, ils se comprennent, ils se respectent, ils s'admirent mutuellement. Et je trouve que même... Alors, chapeau Arsenal pour sa saison,
ouais.
Vraiment. Ce serait même triste pour eux, parce qu'ils ont fait... Voilà, ça faisait longtemps, ils ont fait cavalier seul en tête pendant aussi longtemps. Mais là, je pense que Manchester City est juste trop fort. Et je vais même aller plus loin. Moi, je pense que ça... Alors, ça doit pouvoir être également, le problème c'est qu'ils tombent contre le Real en demi, ça doit pouvoir être leur année en Ligue des Champions. En tout cas, je trouve que ce duo mérite une vraie apothéose cette année, parce qu'ils nous ont éblouis toute l'année.
Tout à fait. Haaland, City a poursuivi sur sa lancée ce week-end en l'emportant 1-2 à Fulham. Haaland a marqué, il a d'ailleurs inscrit son 34e but en Première Ligue et il a égalé le record qui était
connu. Et le goal de De Bruyne cette semaine,
ouais,
c'est absolument incroyable. Il est lancé de la défense, il passe un homme, deux hommes, il est encore très 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 loin du goal. Il voit que le goal est un peu sur sa gauche, donc à la droite du goal, et il le met. Mais alors, on le sait, hein, De Bruyne est certainement celui qui a la frappe la plus puissante, la plus lourde au monde. Et il le met,
il est très loin,
ça part à une de ses vitesses à l'autre bout du Olivier Tom.
Ah oui, exactement. Chapeau. Mais,
pour parler un peu comme Roy Keane, celui qui chope un des deux empêchera City d'être champion et de gagner la Ligue des Champions.
Et il sait de quoi.
C'est le facteur blessure, donc, de deux joueurs qui pourraient encore
faire rater la fin de saison. Et voilà quelqu'un qui sait vraiment de quoi il parle, puisque, souvenez-vous, il y a une vingtaine d'années, un peu plus peut-être, il a justement eu maille à partir avec le père d'Haaland, Alfinger Haaland, qui l'avait blessé. Il a attendu gentiment l'année d'après pour lui mettre un terme à sa carrière, je crois, en lui brisant la jambe. En tout cas, ouais, non, une équipe exceptionnelle. On sait que depuis quelques saisons, en tout cas pas en championnat, mais en Ligue des Champions, la marche est parfois un peu trop haute. Cette année, ils sont opposés au maître.
À cette demi-finale. Elle va être magnifique. Hein.
Ouais, dans une petite dizaine de jours, moi je suis heureux que ce soit pas la finale parce qu'on va avoir deux matchs. La finale, on aurait eu qu'un match. Là, on va avoir deux matchs et on va vraiment pouvoir se régaler entre le roi de l'Europe et puis peut-être la plus belle équipe européenne actuellement.
C'est un peu la finale avant l'heure.
Ouais.
Sans dénigrer les deux autres Milan.
C'est vrai, sur le papier, c'est vrai. Le temps file, donc en Angleterre. Juste un mot sur l'Allemagne, où là aussi la course fait rage, la course au titre. Le Bayern était bien sûr très favori, ils ont gagné 10 fois le titre de suite. La semaine passée, ils ont cédé leur fauteuil de leader au Borussia, et ils sont repassés devant ce week-end. Comment tu vois les choses se finir, toi ?
Je pense que le Bayern va passer au-dessus, mais j'ai rigolé. Oui. Surtout, je pense que c'est Bild qui avait publié ça en cover de son magazine. Ces deux escargots qui représentent Dortmund et le Bayern en disant voilà, la course au titre cette année. Je trouve l'image très bien choisie.
C'est vrai que par rapport à
d'autres
saisons...
Pour une fois qu'un magazine allemand
ouais.
ne fait pas le bad buzz dans l'autre sens, c'était bien trouvé.
Ok, voilà, un dernier mot en Europe. Bon, en Espagne, il n'y a pas eu grand chose à dire puisque rien ne. Pas, statu quo en tête, les quatre premiers ont gagné. En Italie, tu en as parlé. Ce serait mission impossible pour que le Naples ne soit pas champion. Ils auraient pu l'être. Ça aurait été encore mieux au Stade Diego Armando Maradona. Ça le sera peut-être à Udine la semaine prochaine. Ils ont 18 points d'avance. Il reste 6 matchs. Vous faites le calcul. 6 fois 3, 18. Il faut qu'ils perdent tous leurs matchs, que la Lazio gagne en même temps tous les siens. Autant dire que le titre n'est pas encore officiellement en poche, mais c'est tout comme.
Tu as des scénarios comme ça aussi, que la Lazio ne gagne pas et qu'ils sont champions avant l'heure. Mais après, il y a une journée cette semaine, je pense, mercredi.
On verra tout ça. En tout cas, voilà, on a fait un petit peu le tour de cette actualité sportive. Et maintenant, j'aimerais qu'on passe à une nouvelle rubrique. Une nouvelle rubrique que j'ai intitulée sobrement du côté de chez Sam. Et pour la peine, voilà. Pour la peine, je me suis fait plaisir, j'ai emprunté le générique de Bouillon de Culture, Sonny Rollins, Expression Latina Gold. Alors, il s'agit de quoi ? Eh bien, parce que le football peut s'apprécier en dehors des limites d'un terrain, j'ai décidé de vous présenter chaque semaine un livre, un film, une pièce de théâtre, une chanson ou que sais-je encore. En tout cas, une œuvre culturelle qui est en lien avec le football. Alors, pour cette première, j'ai choisi de vous parler du Dictionnaire amoureux de la Coupe du Monde. Cet ouvrage s'inscrit dans une collection, celle des Dictionnaires amoureux, qui est éditée chez Plon depuis 2000. On y trouve des ouvrages vraiment intéressants sur des thèmes hyper variés. On a le Dictionnaire amoureux de Tintin, le Dictionnaire amoureux du vin, qui a été rédigé par Bernard Pivot, le Dictionnaire amoureux de la bêtise, de la cuisine, signé Alain Ducasse. Bref, c'est un sujet qui est traité par ouvrage. Alors bien que le titre laisse présager un ouvrage nature encyclopédique, ce n'est pas tout à fait ça. Il s'agit en réalité d'une suite d'articles, voire d'essais, qui sont classés, comme tout bon dictionnaire, dans un ordre alphabétique. Alors on doit le volume qui est consacré à la Coupe du Monde à celui que moi je considère comme la plus belle plume sportive francophone, Vincent Duluc. Alors ceux qui ne le connaîtraient pas, Vincent Duluc, c'est un journaliste et romancier français. Il travaille à l'Équipe, où il est rentré en 1995 et il est devenu au fil des années le leader de la rubrique football. Il a un style reconnaissable, fait de finesse, d'humour, et ses analyses comme ses éditos sont souvent très pertinents et savoureux. On peut dire qu'il est, selon moi, de ces gens qui élèvent le journalisme sportif au-dessus de la trivialité de certains articles. Il les fait passer à un niveau supérieur et en cela... Il y a peut-être une filiation avec Antoine Blondin qui était la plume de l'Équipe qui suivait le Tour de France et qui a des chroniques qui sont restées très célèbres. Justement, Antoine Blondin, il y a un prix qui porte son nom, le prix Antoine Blondin. Et Vincent Duluc l'a remporté deux fois, une fois en 2014 pour son livre George Best, le cinquième Beatle, et une fois en 2016 pour un roman autobiographique sur fond de fièvre verte qui s'appelle Un printemps 76. J'ai bien dit 76 puisqu'il s'agit effectivement de cette épopée des Verts qui a redonné un coup de jeunesse au football français. Alors je vais vous lire deux petits passages rapidement pour essayer peut-être de vous donner l'envie de vous procurer ce livre et de le lire. Le premier passage que je vais vous lire, c'est à l'entrée B, Best, George Best et les autres. C'est une entrée sur ces grands joueurs, ceux qui n'ont jamais disputé une Coupe du Monde, justement. Leur absence se situe à mi-chemin de la malédiction et de la mythologie. Si tous les héros avaient le même destin, où seraient les héros? Que vaudraient les destins? Que quelques grands noms du jeu n'aient jamais participé à une Coupe du Monde la rend plus précieuse encore et rappelle l'alignement des planètes nécessaires pour que les étoiles soient réunies au même lieu, au même moment, tous les 4 ans. La magie et la rareté de la Coupe du Monde superposent l'idée d'un rendez-vous individuel et d'un rendez-vous collectif. George Best, le plus grand de tous ceux qui ont été privés de Coupe du Monde, n'a jamais été à l'heure à ses rendez-vous, sans doute parce qu'il les enchaînait, surtout la nuit. Mais Bestie, Ballon d'Or 68 avec Manchester United, alcoolique et séducteur, a d'abord été victime de sa nationalité sportive. Il est plus difficile d'aller en Coupe du Monde en jouant avec l'Irlande du Nord, qui ne s'est pas qualifiée entre 58 et 82, qu'avec le Brésil. Cette malédiction a également poursuivi Ryan Giggs, Ian Rush, George Weah et Yari Litmanen, jusqu'à l'étrange cas de Laszlo Kubala, élu meilleur joueur du FC Barcelone par les fans en 1999 devant Cruyff et Maradona, et qui aura joué pour la Tchécoslovaquie, la Hongrie et l'Espagne, à une époque où le jeu des naturalisations le rendait possible, mais jamais au bon moment. Voilà, ça c'était un extrait de son article sur George Best, et alors je ne peux pas résister, parce que Alex, je sais que tu reviens du Pérou, il y a un article qui s'appelle pas le Pérou, et qui est aussi savoureux. Je vous en lis un passage, je vous lis le début. Le Pérou a le plus beau maillot du monde. Blanc, avec une diagonale rouge, la couleur portée par Luis Cubillas et